qui traverse majestueusement la ville, Cologne compte près d'un million d'habitants. Son centre gravite autour de sa célèbre cathédrale gothique, située dans les rues piétonnes de la vieille ville. Cologne est aussi une métropole culturelle et industrielle, et les pavillons de sa foire accueillent chaque année de nombreux salons et expositions. Parmi ces pavillons, la Sporthalle accueillait en mai 1988 une manifestation pas comme les autres. En effet, une église locale avait organisé durant 3 jours des rencontres qui ont rassemblé une dizaine de milliers de chrétiens venus de différentes communautés. L'orateur principal de ces rencontres était le docteur Paul Yong-Kit-cho de Séoul, pasteur de la plus grande église chrétienne du monde, qui compte plus de 700 000 membres actifs. Son séminaire principal sur la croissance de l'église s'adressait aux responsables des communautés et mettait l'accent sur l'importance de la prière, de la vision spirituelle, des cellules de maison et de la communion avec le Saint-Esprit.
Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la croissance de l'Église. En effet, je ne suis pas un évangéliste, je suis un pasteur. Et j'aime beaucoup partager avec les pasteurs mon expérience par rapport à la croissance de l'Église. Alors aujourd'hui, je me sens vraiment à l'aise. Beaucoup de gens me posent la question, est-ce que l'Église va grandir réellement aujourd'hui dans le monde? Je peux vous assurer que c'est la volonté de Dieu pour vous d'avoir une grande Église et une Église qui s'accroît. En 1958, j'ai commencé mon travail de pionnier avec 5 membres. Bien sûr, au début, j'avais beaucoup de difficultés. Je n'avais aucun soutien du tout. À cette époque, j'ai jeûné plus que je n'ai mangé le matin et le soir. Et si j'ai jeûné, ce n'est pas seulement pour des motifs spirituels, mais parce que je n'avais rien à manger. En ce temps-là, j'ai appris donc comment jeûner et prier. Le résultat est que nous avons aujourd'hui la plus vaste montagne de prière et de jeûne dans le monde. Chaque jour, environ 3000 personnes se trouvent là pour le jeûne et la prière. Le week-end, il y a près de 10 000 personnes qui se réunissent là pour jeûner et prier. Notre église compte maintenant 600 000 membres.
New members added to our congregation per month.
et cette église s'accroît chaque mois de 13 000 nouveaux membres. Séoul est une grande ville, elle compte plus de 10 millions d'habitants. Mais une personne sur 20 de Séoul fait partie de notre église. Le mois dernier, nous avons eu des élections pour le Parlement.
And we have elected 30 members of my congregation as a congressman.
Et nous avons eu 30 membres de notre église qui ont été élus comme députés.
And also the wife of our president was baptized by me in my church and she's our member in our church.
Aussi la femme de notre président a été baptisée chez nous. Et elle fait partie de notre église. Donc, si vous avez une grande église, vous avez une grande influence. Lorsque votre église parle, toute la nation écoute. Chaque dimanche matin, environ 70% de la population regarde notre programme de télévision. Ainsi, nous avons une grande influence. C'est pour cela que vous devez également avoir une grande église dans votre région. Si vous avez une petite assemblée dans les faubourgs de la ville, vous pouvez crier, chanter, danser, mais personne ne fera attention. Mais lorsque vous avez une grande église dans la ville, à ce moment-là, tout le monde sera attentif à vous. Ainsi, vous aurez une grande puissance pour conduire des âmes à Jésus-Christ. L'année dernière, notre pays a connu de grands troubles. Juste avant les élections présidentielles, le Parti du Travail et les communistes ont vraiment semé le trouble dans notre pays. Nous nous demandions s'il était possible d'avoir la paix civile pour les élections. Et nous avions des craintes concernant les Jeux Olympiques en septembre. Lorsque j'ai rendu visite à notre Premier ministre, il tremblait de peur. Il m'a dit, « Pasteur, je ne sais pas où va ce pays. Nous avons besoin d'aide. » Alors j'ai pris la parole dans notre assemblée pour dire aux chrétiens,
« Un mois de aujourd'hui, nous allons avoir une grande plaza. »
D'ici un mois, nous allons avoir une grande réunion de prière sur la place Yerido. Nous allons réunir 1 million de personnes qui prieront pour notre pays. Je me suis donc adressé à tous les responsables de différentes dénominations. Mais ils m'ont dit, cela n'est pas possible. D'ici un mois, il n'est pas possible de réunir 1 million de personnes pour prier. Mais je leur ai dit, si vous ne voulez pas collaborer avec nous, nous allons l'organiser nous-mêmes. Alors le 3 octobre, nous nous sommes donc réunis sur la place Yerido. Il y avait là 1,5 million de personnes. Nous avons prié avec puissance notre Dieu pour que par notre prière, tout le pays soit secoué. Et tout à coup, les troubles ont cessé. Toute cette offensive du diable s'est arrêtée. Parce que 1,5 million de personnes ont fait une grande marche à travers la ville. Nos bannières couvraient toute la ville. Tout ce rassemblement a été couvert par la radio et la télévision. Tout le pays nous a vus à la télévision. Alors les responsables du parti ouvrier ont eu peur de la puissance des chrétiens. Et ils ont arrêté de semer le trouble. Et nous avons retrouvé la paix sociale. Et nous avons eu des élections présidentielles qui se sont déroulées normalement. Alors le Premier ministre m'a invité à nouveau. Il est venu vers moi et il m'a dit, « Oh, votre Église est notre salut !» Mais je lui ai répondu, « Non, notre Église ne donne pas le salut, c'est Jésus qui donne le salut. » Alors si vous avez une grande Église, vous avez une grande puissance de Dieu et une grande influence sur les gens. C'est donc la volonté de Dieu d'avoir une grande église dans votre région. Je vais vous montrer comment construire une grande église. Une grande église commence dans le cœur du pasteur et des autres chrétiens. Tout d'abord, nous devons devenir en quelque sorte enceintes de la vision de cette grande église. La Bible dit que le peuple périt par manque de vision. La vision, c'est pour ainsi dire l'avenir qui est déjà présent dans notre cœur.
En 1958,
lorsque j'ai commencé mon église sous une vieille tente, nous étions seulement 5 membres. Mais lorsque nous nous sommes mis à genoux pour prier, le Saint-Esprit est venu sur moi. Oh, le feu du Saint-Esprit a vraiment secoué mon âme. Et dans mon esprit, je pouvais voir une église de 3000 membres. Mon esprit a été imprégné de cette vision d'une église de 3000 membres. Oh, j'étais excité. J'ai été saisi par cette vision. Puis j'ai ouvert mes yeux et j'avais devant moi 5 personnes et cette vieille tente en lambeaux. Lorsqu'il pleuvait, l'eau pénétrait à l'intérieur. Et ma tente se trouvait juste à côté d'une montagne. Et pendant la saison des pluies, nous avions parfois plus de grenouilles dans la tente que d'auditeurs. Alors sur le plan humain, j'étais vraiment découragé. Mais lorsque je priais, dans mon esprit, j'ai eu à nouveau cette vision de 3000 personnes. Alors je me suis dit, tu dois être fou. Mais jour après jour, cette vision est devenue plus concrète.
So by and by, I was persuaded and I began to believe.
Petit à petit, j'ai été persuadé jusqu'à y croire. Je vais vous dire, les visions et les songes sont les mères de la foi. Avant d'avoir la foi, vous devez avoir la vision ou des songes. Et si vous devenez enceinte de votre vision ou de votre songe, vous allez accoucher de la foi. J'ai eu ces visions suffisamment longtemps pour que ma foi devienne solide. J'ai vraiment cru que j'étais devenu pasteur d'une église de 3000 membres. Et tout à coup, je me suis mis à parler comme si je m'adressais à 3000 personnes. J'étais debout devant les 5 membres, mais je prêchais comme s'ils étaient 3000. Et j'ai commencé à travailler comme un pasteur de 3000 membres. Toute ma personnalité avait changé. Ma fiancée est venue vers moi et elle m'a dit, tu sais, les gens parlent de toi. Ils disent que tu es en train de perdre la raison. Et moi-même, je pense que tu es fou. Tu es orgueilleux. Tu as seulement 5 membres. Et tu te comportes comme si tu étais le pasteur de 3000 personnes. Si tu continues sur cette voie, je te quitterai. Mais je lui ai répondu, écoute, Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Alors même si je n'ai pas encore les 3000 membres, je dois me comporter comme si cela était. C'est ainsi que j'y croyais. J'ai continué à prêcher. En 1964, j'avais 3000 membres. Ces visions et ces songes sont très importants pour la croissance de notre Église. Si vous avez des visions, elles vont former votre manière de penser. Je dis souvent, vous ne formez pas de vision, c'est la vision qui vous forme. Montre-moi ta vision et je vais te montrer ton avenir. C'est très important. Parce que les visions et les songes sont le langage du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous parle à travers les visions et les songes. La Bible dit que dans les derniers temps, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Dieu n'est pas limité par le temps et l'espace. Dieu peut montrer les choses de l'avenir comme si elles étaient déjà présentes maintenant. Vous et moi, en tant qu'êtres humains, nous ne pouvons pas faire cela. Nous pouvons seulement rêver dans notre cœur. Mais à travers les visions et les songes, nous pouvons dépasser les limites de l'espace et du temps. À travers les visions et les songes, le Saint-Esprit peut travailler avec vous. Savez-vous qu'actuellement je suis enceinte en quelque sorte d'1 million de personnes? J'ai ici en moi cette vision. Est-ce que vous avez déjà vu un homme enceint? Moi, je suis cet homme. Gloire à Dieu. Et puisque j'ai cette vision, j'ai la foi. En 1992, j'aurai donné naissance à 1 million de membres. Beaucoup de gens disent, nous ne savons pas comment avoir des visions et des songes. Parfois, le Saint-Esprit vous donne directement des visions et des songes. D'autres fois, vous êtes inspiré pour avoir des visions et des songes dans votre cœur par le Saint-Esprit. Par exemple, si vous voulez acheter une voiture, vous allez savoir dans votre esprit quelle voiture vous désirez avoir, n'est-ce pas?
Volkswagen, Audi, and Benz.
Vous irez voir une Volkswagen, une Audi, une Mercedes ou peut-être une Honda.
C'est un coréanisches auto.
So in your mind, you will really see the car.
Dans votre esprit, vous allez vraiment vous représenter la voiture que vous désirez. Puis, vous allez avoir la foi et vous irez acheter la voiture. Mesdames, lorsque vous cherchez à avoir une maison, vous n'allez pas simplement prendre la première qui se présente. Vous allez d'abord imaginer cette maison dans votre esprit. Puis vous allez partir à la recherche de la maison que vous désirez. C'est de cette manière-là que le Saint-Esprit va vous inspirer et vous donner la vision dans votre être intérieur. Aux États-Unis, M. Hunt voulait m'attaquer au sujet de mon enseignement des visions et des songes. Il prétend que je suis membre du mouvement New Age. Mais je ne suis pas un adepte de New Age. Dans le New Age, l'être humain devient Dieu. Ils disent, vous pouvez devenir Dieu. Vous pouvez libérer votre puissance comme si vous étiez Dieu. Mais nous n'avons jamais dit qu'un être humain était Dieu. Notre Dieu est le Dieu de la Trinité. Nous prions le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous nous préparons par les visions et par les songes afin que Dieu puisse nous utiliser. Alors je ne suis pas un membre de ce mouvement du New Age. Mais c'est vrai que dans ce mouvement, ils demandent aux adeptes aussi de visualiser. Vous savez, dans le mouvement New Age, ils parlent aussi anglais et allemand. Est-ce que parce que les adeptes de New Age parlent anglais et allemand, les chrétiens ne devraient-ils plus parler ces langues? C'est le diable qui essaye toujours d'imiter Dieu et les principes de Dieu. Alors nous ne devons pas avoir peur. Maintenant, si vous avez une vision claire de l'objectif à atteindre, vous pouvez retrousser les manches et vous mettre au travail. L'église s'accroît grâce à la bonne prédication. Vous pouvez avoir un très joli bâtiment. Vous pouvez avoir une très bonne organisation. Mais si vous n'avez pas dans l'église une bonne prédication, elle ne va pas grandir. Vous savez, j'aime beaucoup les petits pains allemands. Lorsque je prends l'avion et que je m'envole vers l'Allemagne, je pense déjà à ces petits pains que je vois. Parce que j'aime tellement les petits déjeuners allemands. Alors quand je viens en Allemagne, je viens conduit par le Saint-Esprit et par les petits pains. Oui, une bonne nourriture attire les gens. En Corée, on dit que l'amour passe par l'estomac. Vous savez, dans la famille, lorsque l'épouse prépare un bon repas, les hommes ne vont pas s'en aller ailleurs. Bien sûr, au début de votre mariage, votre union est basée sur l'amour romantique avant tout. Mais la lune de miel ne dure pas toujours très longtemps. Après, l'amour passe surtout par l'estomac. Alors, dans l'église, vous devez donner une bonne nourriture aux chrétiens. D'abord, les gens sont attirés à l'église par la beauté du bâtiment, par la belle musique. Mais finalement, ils y restent à cause de la bonne nourriture. Dans n'importe quel restaurant où on mange bien, il n'y aura pas de problème pour avoir des clients.
The minister should really prepare a good message and really give a very wonderful, nutritious, tasty food.
Alors, pour que l'église puisse grandir, les pasteurs doivent préparer de bons messages, une nourriture saine et qui a bon goût. Dans mon église, je m'investis énormément pour préparer un bon message. Lorsque vous avez un demi-million de membres dans l'église, vous avez beaucoup de travail à faire. Mais je ne m'occupe pas des enterrements, des mariages, ni des visites. J'ai dans mon église 500 pasteurs à plein temps. Alors je leur délègue tout mon travail. Et je passe la plus grande partie de mon temps à prier et à préparer les messages. Bien sûr, les gens se plaignent que leur pasteur est souvent absent. Mais ils viennent à l'église parce qu'on leur apporte de la bonne nourriture. Alors, préparer un bon message, c'est vraiment très important. Vous savez, dans l'église, nous ne devrions jamais traiter un sujet qui n'a rien à voir avec la Bible. La nourriture spirituelle, elle commence dans le livre de la Genèse, elle se termine dans l'Apocalypse. Depuis la chaire, nous ne devrions jamais entrer en concurrence avec ceux qui s'occupent de la politique et du social. Depuis la chaire, nous avons à annoncer la parole de Dieu. Notre message doit être centré sur la Bible, centré sur Jésus-Christ et centré sur le salut. Lorsque j'étais pasteur débutant dans mon église en 1958, je ne connaissais pas beaucoup de choses de la théologie. J'ai été prédicateur de l'évangile dans le sens traditionnel. J'appelais tous les auditeurs pécheurs et je ne les épargnais pas. Chaque fois qu'ils venaient à l'église, j'étais dur avec eux. Et lorsque les gens étaient vraiment découragés et abaissés, je pensais que j'avais donné un bon message. Parce que c'était l'évangile traditionnel. Pour cette raison, j'avais très peu de gens qui venaient à l'église. Un jour, je suis allé à la recherche d'âmes perdues. Dans notre région, il y avait beaucoup de réfugiés. C'étaient des gens très, très pauvres. Je crois que vous, les Allemands, vous savez ce que signifie la guerre. J'ai donc visité une famille qui comptait 10 garçons. Ils vivaient tous dans une seule pièce et il n'y avait qu'une seule couverture. Oh, quelle misère! En Corée, le plat principal est le riz. La famille n'avait pas assez de riz pour se nourrir parce que le mari était un alcoolique invétéré. Et les 10 enfants étaient soit cireurs de chaussures, soit ils faisaient des pickpockets dans la rue. Lorsqu'ils venaient à la maison avec un peu d'argent, le père le prenait et il buvait du matin jusqu'au soir. Il n'y avait plus aucun espoir pour cette famille. J'ai donc frappé à cette porte. Alors la porte s'est ouverte et la femme m'a regardé par cette porte. Elle était tellement maigre. Elle m'a demandé, « Qui êtes-vous ? » « Je suis un pasteur. Je viens ici pour vous parler du ciel et de l'enfer. » Elle m'a dit, « Le ciel ?» J'appelle tous les chrétiens des menteurs. Si vous avez ce beau ciel dont vous parlez, pourquoi vous ne nous apportez pas un bout de ce ciel? Si votre Dieu ne peut pas nous donner un bout de ce ciel ici sur la terre, comment pouvez-vous croire qu'il existe? J'étais complètement choqué. Alors je lui ai dit, il ne faut pas que vous alliez en enfer, c'est un endroit très inconfortable. Elle a rigolé. Elle a dit, l'enfer? Je suis déjà en enfer. À quel autre enfer est-ce que je peux encore m'attendre? Elle me dit, vous êtes un menteur, fichez-moi le camp. Elle ne croyait pas que le ciel existe et elle n'avait pas peur de l'enfer. J'étais terriblement confus et en même temps convaincu par ce qu'elle disait. Je me suis dit, ce qu'elle dit est vrai, oui. Si notre Dieu est un Dieu d'amour, il devrait nous donner déjà un bout de ciel ici. Je lui ai donc dit, vous avez raison, vous vivez vraiment déjà l'enfer. Quel est l'enfer encore plus horrible que celui dans lequel vous vivez maintenant? Alors je suis retourné à mon bureau et j'ai dit, Seigneur, je n'ai aucun message que je puisse prêcher à ces gens. Je dois leur donner quelque chose du ciel déjà ici sur la terre. Puisque cette femme vit déjà l'enfer, je ne peux plus l'effrayer avec cela. Et j'ai commencé à étudier le Nouveau Testament sous une nouvelle lumière. J'ai décidé d'oublier tout ce que j'avais appris à l'école biblique. Et j'ai décidé de lire la Bible avec l'aide du Saint-Esprit. J'ai été étonné de découvrir ce Jésus-Christ si différent de celui qui m'avait été enseigné à l'école biblique. Selon la Bible, Jésus-Christ haïssait le péché, mais il aimait le pécheur. Jésus-Christ haïssait le diable, mais il a aimé ceux qui étaient possédés par les démons et il les délivrait. La maladie était un adversaire de Jésus, mais il aimait les malades et les guérissait. Jésus-Christ haïssait la mort, mais il a ressuscité des morts en nouveauté de vie. Jésus-Christ a nourri les affamés. Jésus-Christ a apporté aux hommes l'amour, la paix et le bien-être. Jésus-Christ ne disait pas, repentez-vous, mourrez et vous irez au ciel. Non, la Bible dit, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Oh, j'étais secoué. Parce que l'évangile était une réalité concrète pour notre vie. Jusqu'à présent, pour moi, l'évangile signifiait les choses qui allaient se passer après la mort. Mais quand j'ai recommencé à lire la Bible, je me suis aperçu que Jésus-Christ était très préoccupé de notre vie ici-bas. Et lorsque j'ai lu le passage dans 3 Jean 2, cela résumait bien le ministère de Jésus-Christ. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Alors je me suis dit, si je prêche la prospérité de l'âme, Dieu nous donnera la prospérité dans notre vie quotidienne. Et Dieu va nous guérir. L'évangile ne sert pas à détruire les gens, mais à les sauver. Et je me suis rappelé les paroles de Jésus. Le diable vient pour détruire, pour voler, mais Jésus-Christ est venu pour apporter la vie et la vie en abondance. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et j'ai commencé à annoncer la bonne nouvelle. Alors mon esprit a été renouvelé et je suis retourné voir cette dame. J'ai frappé à la porte, j'avais un peu peur. Je pensais qu'elle allait ouvrir la porte et me chasser. Et effectivement, elle a ouvert la porte. Elle m'a dit, dehors. Je ne veux pas de sermon. Je lui ai répondu, non, madame, je vous apporte un autre évangile. Je ne lui ai pas prêché sur le ciel et l'enfer. Je viens ici pour prêcher Jésus, j'ai dit. Écoutez-moi. Jésus peut délivrer votre mari de l'alcool. Jésus-Christ peut envoyer vos 10 enfants à l'école. Jésus-Christ peut vous aider à avoir votre propre maison et une vie décente. Le diable veut vous voler et vous détruire. Mais Jésus-Christ veut vous donner la vie et la vie en abondance. Notre Dieu est un Dieu bon. Lorsque vous vous approchez de Dieu, votre vie entière sera changée. Nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'au ciel pour goûter ce que c'est le ciel. Le ciel est déjà au milieu de nous à travers Jésus-Christ. Alors, les yeux de cette femme ont commencé à s'éclairer. Elle a dit, c'est une chose que je n'ai jamais encore entendue. Je lui ai répondu, alors vous l'entendez maintenant, venez à l'église. Elle s'est levée et elle a dit, dans ton église, oui, je viendrai. Et elle m'a suivi. Et je suis arrivé à cette vieille tante qui faisait office d'église. Elle a demandé, où est votre église? J'ai répondu, c'est ça mon église. Elle a regardé et elle a ri. Votre situation n'est pas meilleure que la mienne. Oui, j'ai dit, ça c'est bien vrai. Vous et moi, nous avons besoin de l'aide de Dieu. Mais puisque je lui avais parlé de l'évangile, elle n'était pas découragée. Et nous avons prié ensemble. 3 mois plus tard, son mari a été délivré de l'alcool.
Et il a eu le job.
Et il a trouvé du travail. Il a commencé à nourrir sa famille. Et les 10 enfants se sont mis à fréquenter l'école. Finalement, avec l'aide du gouvernement, il a pu acheter un bout de terrain et il a construit une jolie petite maison. Et plus tard, il est devenu un des anciens de notre communauté. Et 3 de leurs 10 enfants sont devenus serviteurs de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est ce genre d'évangile que nous devons prêcher. Alors pour avoir une grande église, les pasteurs doivent prêcher le plein évangile. Avec la théologie moderne ou libérale, vous ne pouvez pas amener des âmes au salut. Deuxièmement, pour que l'Église puisse croître, vous devez prier. L'Église grandit lorsque vous êtes à genoux. Les gens viennent me voir et me posent la question, combien de temps vous priez? Chaque jour, je prie au moins 1, 2 ou 3 heures. Lorsque je donne un séminaire, j'essaye de prier 3 à 5 heures par jour. Sans la prière, vous ne pouvez pas être rempli jusqu'à la saturation par la puissance du Saint-Esprit. Je demande aux chrétiens chez nous de prier au moins une heure par jour. Vous savez, Dieu est amour. Et aimer consiste à être en communion avec l'autre. Lorsque vous vous aimez l'un l'autre, vous aimez être en communion l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Dieu a parfois beaucoup de peine. Parce qu'il est amour, il veut être en communion avec nous. Dieu désire que nous venions à lui pour avoir cette communion. Pas une communion très brève, mais une communion qui dure longtemps. Lorsque vous passez une heure en prière, vous allez sentir la présence du Saint-Esprit dans votre cœur. En Corée, nous avons chaque matin une réunion de prière. Nous venons à l'église à 4h30 pour prier. Ainsi, être pasteur en Corée, ce n'est pas une chose facile. Beaucoup de gens demandent, pourquoi quittez-vous le pays si souvent? Alors, je réponds, pour apprécier les grasses matinées. En Corée, les pasteurs ne peuvent pas dormir longtemps le matin. Il m'est arrivé une aventure un jour. J'étais tellement fatigué que je suis resté endormi le matin. Mon téléphone a sonné, il a sonné. Encore un peu endormi, j'ai pris l'écouteur. Et à l'autre bout du fil, il y avait ma belle-mère. J'ai été effrayé. Je ne crains que deux personnes, mon Dieu et ma belle-mère. Elle m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? Maman, je suis en train de dormir. Tu devrais avoir honte. Il est 5 heures du matin. Nous t'attendons déjà depuis 30 minutes. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, j'étais vraiment effrayé. J'ai sauté du lit. Je suis allé dans la salle de bain. Je me suis lavé les dents. J'ai lavé mon visage. J'ai pris la Bible. Et je me suis rendu à l'église à toute allure. Et je suis arrivé sur l'estrade. Et j'ai voulu commencer à prêcher. Mais tout le monde était plié de rire. Lorsque je me suis regardé, j'ai réalisé que j'étais en pyjama. En Corée, que vous portiez un pyjama ou un complet veston, vous devez prier. En Corée, nous prions tellement que les portes du ciel s'ouvrent. La puissance du Saint-Esprit se répand sur la Corée du Sud. En Corée, il est tellement facile de gagner des âmes à Jésus-Christ. Chaque année, nous avons plus d'un million de conversions à Jésus-Christ en Corée. Nous estimons qu'en 1992, 50% des Coréens seront nés de nouveau. Frères et sœurs, ici en Allemagne, vous avez des églises magnifiques. Vous avez des bâtiments extraordinaires. Vous avez des gens qui sont très cultivés. Vous avez tout ce qui est nécessaire pour un grand réveil. Mais le problème est que vous ne priez pas assez. Vous ne pouvez jamais avoir un réveil sans la prière. Dans l'histoire du christianisme, aucun pays n'a connu de réveil sans une prière intensive. Je vous le dis, la prière n'est pas du tout une chose romantique. La prière, c'est un combat. Lorsque j'ai commencé à prier tôt le matin, ma chair me dit, « Joe, tu pourrais dormir encore quelques minutes de plus. Demain, tu prieras à fond. Aujourd'hui, tu peux dormir un peu plus longtemps. » Et je devais combattre cette idée. Le diable vient et nous apporte tellement de confusion. Et je devais lutter. J'avais des démangeaisons partout. J'avais des douleurs aux articulations. Et il fallait lutter pour chaque centimètre de terrain. Mais au bout de 30 minutes, j'étais plongé dans le Saint-Esprit. Et j'ai pu réellement me sentir en communion avec le Saint-Esprit. Alors chaque jour, ma prière représentait un combat. Oh, frères et sœurs, lorsque vous commencez à prier, des choses se passent. Dans mon église, j'ai commencé une grande campagne de la prière. La plus grande chose dans une église, c'est la prière. C'est la raison pour laquelle nous grandissons si rapidement. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas de division parmi les chrétiens. Car nous piétinons tous ensemble le diable et nous sommes unis par le Saint-Esprit.
Alléluia.
Alléluia.
Number three, to have a church growth, you must have definite experience with Holy Spirit.
Troisièmement, pour avoir une église qui grandit, vous devez faire une expérience particulière avec le Saint-Esprit. L'église est née le jour de la Pentecôte.
And then church has been growing on the lap of the Holy Spirit.
Et puis l'église grandissait et a été conduite par le Saint-Esprit. L'Église est conduite vers le ciel par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le maître de la moisson. Si vous essayez de construire une Église sans le Saint-Esprit, vous vous trompez complètement. Dans cette génération, les communautés chrétiennes ont commis certaines graves erreurs. À la place du Saint-Esprit, ils ont instauré les comités et des organisations. Ils ont compté sur l'intelligence humaine. Dans l'Église, c'est le Saint-Esprit qui est le pasteur principal. Nous ne sommes que des collaborateurs. En 1964, lorsque j'avais 3000 membres dans l'Église, subitement, la croissance de mon Église s'était arrêtée. Je travaillais beaucoup, mais mon église n'avait plus aucune croissance. Puis un jour, j'ai vraiment prié et j'ai reçu une grande révélation de la part de Dieu. J'étais comme en extase et j'ai entendu la voix de Dieu. Mon fils, est-ce que tu veux que ton église grandisse au-delà de 3000 membres? Alors j'ai dit oui, mon père. Alors, aie une communion profonde avec le Saint-Esprit. J'ai dit, le Saint-Esprit, mais je suis déjà le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi, j'étais baptisé du Saint-Esprit et je parle en langue. Pourquoi aurais-je besoin encore davantage du Saint-Esprit? Dieu m'a répondu, c'est ça ton problème. Le Saint-Esprit n'est pas là pour qu'on fasse avec lui une seule expérience. Le Saint-Esprit est une personne avec qui il faut vivre en communion permanente. Tu as négligé le Saint-Esprit. Tu as attristé le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu n'as plus de puissance. Alors je suis revenu à moi-même. J'avais été secoué profondément. J'ai eu peur. Alors j'ai ouvert ma Bible dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 13. Ces paroles ont transformé complètement mon esprit. Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. La communion avec le Saint-Esprit, c'est ça, attention, j'écoute. Le mot grec de communion est koinonia. Koinonia signifie la communion.
And also koinonia means that you are working together.
Cela signifie aussi que vous travaillez ensemble.
So I said, all these days I just treated the Holy Spirit as the experience.
Alors je me suis dit que durant tout ce temps, j'avais regardé le Saint-Esprit comme une expérience qu'on fait une seule fois. Je ne l'avais jamais considéré comme une personne. Et la Bible nous exhorte à être en communion avec le Saint-Esprit et à travailler ensemble avec lui. Alors je me suis mis à genoux et j'ai dit, « Oh Saint-Esprit, pardonne-moi. » Dieu est assis sur son trône, Jésus-Christ est à sa droite. Et toi, tu es dans l'Église, tu es en moi. Tu es une personne importante. Et je t'ai négligé. À partir d'aujourd'hui, je te confesserai. Je t'invite à venir dans ma vie. Je veux dépendre de toi. Je veux t'adorer. Tu es mon pasteur principal. Tu es le partenaire qui est au-dessus de moi. À partir de ce jour-là, quand je vais me coucher, je dis au Saint-Esprit, bonne nuit. Le matin, lorsque je me lève, je dis, bonjour Saint-Esprit, quelle belle journée nous allons avoir ensemble. Toi et moi, nous allons apporter Jésus-Christ à cette génération qui est en train de mourir. Depuis ces jours, avant de monter sur l'estrade pour prêcher, je prie, « Oh, cher Saint-Esprit, aide-moi. » Toi et moi, nous allons prêcher ensemble. Alors je me lève et je dis, « Saint-Esprit, vas-y !» Et après, je lui dis, « Saint-Esprit, tu as fait un travail magnifique. »
«
Et à partir de ce jour-là, il y a eu à nouveau une onction du Saint-Esprit et notre Église a recommencé à grandir et nous avons eu 6 000 membres, puis 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000, un demi-million de membres et maintenant nous sommes en route pour 1 million de membres. Je peux vous dire, le ministère de l'Église doit être accompli par le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas construire l'Église par la force de la chair. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Je dis toujours aux chrétiens quand je viens le dimanche matin, est-ce que vous reconnaissez le Saint-Esprit? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous dépendez de lui? Et la réponse est oui, oui, amen. Et ensemble avec le Saint-Esprit, nous commençons à louer notre Dieu. Oui, le Saint-Esprit est ici pour guérir vos infirmités. Le Saint-Esprit est véritablement ici pour nous aider. C'est lui qui nous enseigne. C'est lui notre consolateur. C'est lui notre avocat. Il est celui qui révèle. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas exercer un ministère efficace. Ce que j'ai pu accomplir en si peu de temps a été fait par la puissance du Saint-Esprit. Oh, frères et sœurs, retrouvez à nouveau la réalité du Saint-Esprit. L'Église ne peut pas croître en Allemagne et en Europe sans que la puissance du Saint-Esprit ne soit reconnue. Soumettez votre vie au Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vivez ensemble avec le Saint-Esprit. Et il va vous utiliser pour la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Vous ne pouvez avoir une église en croissance que lorsque vous serez rempli du Saint-Esprit. Nous demandons à nos membres de prier et d'être remplis du Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, environ 100% des membres de notre Église sont remplis du Saint-Esprit et ils parlent en langue. Oh, quelle puissance nous ressentons! Oh, alléluia! Donc, premièrement, la prédication. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, le Saint-Esprit. Et quatrièmement, pour voir la croissance de l'Église, vous devez permettre aux laïcs d'accéder à certains ministères.
Quand
je viens en Europe, j'ai trouvé que le ministère est limité aux pasteurs ou aux priestes.
Lorsque je suis arrivé en Europe, j'ai constaté que les ministères étaient limités aux pasteurs et aux prêtres. Dans mon église, la plupart des âmes qui sont gagnées à Christ le sont par des laïcs. Moi, je ne fais pas de visite. Je n'ai pas de contact avec les inconvertis. Mais j'ai formé 50 000 laïcs. Nous avons élaboré un système de responsables de cellules de prière. Et à travers ces cellules, les chrétiens peuvent toucher leurs voisins. Et ils conduisent ainsi les âmes à Jésus-Christ. Les inconvertis se gênent de venir à l'église. Mais ils sont d'abord invités par les groupes de maison. Et c'est ensuite que ces personnes doivent être amenées à l'église. Je vous le dis, en Europe, dans les églises, on a peur d'utiliser les femmes dans le service. Et particulièrement en France, lorsque j'ai proposé d'utiliser les femmes dans le ministère, les pasteurs n'ont pas été d'accord. Mais je peux vous dire que les femmes sont de merveilleux instruments de Dieu pour faire de l'évangélisation. Ne délaissez pas les capacités des sœurs dans vos communautés.
Fähigkeiten der Schwestern in der Gemeinde nicht brach liegen.
Sur les 50 000 responsables de cellules, 70% sont des femmes. Oui, les femmes sont très douées pour gagner des âmes. Vous savez, les femmes sont toujours en train de parler. C'est ainsi que je ne dis pas « téléphone », je dis « téléphone ». Donnez la parole de Dieu aux femmes et elles vont la répandre partout. Formez les femmes et vous constaterez la croissance de l'Église. Alors c'est grâce au travail des laïcs que notre Église grandit. Enfin, pour voir croître l'Église, il faut avoir une vision missionnaire. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui stagne. Le Saint-Esprit est en mouvement de Jérusalem, en Judée, en Samarie, puis jusqu'aux extrémités de la terre. Pour avoir toujours un souffle frais du Saint-Esprit, vous devez soutenir le travail missionnaire. Nous avons des radios et des télévisions dans tout le pays. Nous prêchons l'évangile chaque jour à la radio et chaque dimanche à travers la télévision. Nous diffusons l'évangile à la radio chaque jour vers l'Union soviétique, la Chine rouge. Et nous avons des programmes de télévision au Japon, aux États-Unis et en Australie. Notre Église a déjà envoyé 300 missionnaires sur les champs missionnaires. Notre objectif est d'envoyer 500 missionnaires de notre Église. Chaque partie de notre Église est passionnée par le travail missionnaire. Nous prions et nous faisons des dons pour la mission. Sincèrement, je crois que quelque chose va se passer en Allemagne. Les gens recherchent de plus en plus Dieu, ils sont plus fervents dans la prière. Et je vais prier pour que vous ayez la vision de l'évangélisation de l'Europe entière.
God bless you.
Que Dieu vous bénisse.
Amen.
Amen. Thank you.